Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassaigne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, on entre d'abord dans l'univers de l'écrivain congolais Blaise Ndala, auteur en 2021 du livre « Dans le ventre du Congo ». Il était fin octobre présent au dernier salon du livre afro-canadien de l'Outaouais.
Ces noirs, ces congolais, y avaient été exposés comme des sauvages pour justifier en quelque sorte l'importance, la pertinence du projet colonial, de la mission civilisatrice telle que la Belgique l'amenait en Afrique centrale.
Puis on plonge ensuite dans l'univers du musicien Martin Aucoin, qui baigne dans la musique traditionnelle depuis son tout jeune âge. Il était de passage au Festival international Celtic Colors du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse.
La musique était déjà dans ma tête. Ça fait que quand j'ai pris les instruments, ça y est, ça s'est mis à sortir.
Une famille quitte la terre ferme pour un nowhere sur les fleuves et les mers des Amériques. On les a retrouvés voguant sur une rivière en Alabama.
Après ça, on n'a aucune idée où est-ce qu'on va s'en aller. On veut voir le monde. C'est ça, voyager.
Et après avoir passé près de deux décennies dans les forces armées canadiennes, Steven Bilodeau choisit le rire pour guérir et devient humoriste.
J'ai été dans l'armée pendant 20 ans et pendant 20 ans, être souvent dans des situations qui ont été périlleuses, situations qui vont avoir été difficiles, où est-ce que le groupe dans lequel j'appartenais pouvait vivre des moments difficiles, mais lorsque j'utilisais l'humour, ça l'aidait beaucoup.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI.
Blaise Ndala est auteur de soir et juriste le jour à Ottawa. Il était l'un des auteurs présents au plus récent salon du livre afro-canadien fin octobre à Ottawa. Son dernier roman « Dans le ventre du Congo » paru chez Mémoire d'Encrier en 2021 porte un regard critique sur la colonisation Belgique-Congo. L'œuvre nous raconte l'époque coloniale dans toute son ignamie et notamment les conditions de détention de Congolais exhibés dans des eaux humaines imaginées en Belgique. Dans le ventre du Congo relate l'histoire de la princesse Tsala, séduite par un jeune colon belge, mais qui terminera, elle aussi, exposée dans le dernier zoo humain d'Europe. Une page d'histoire que Blaise Ndala croise lorsqu'il visite le musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, près de Bruxelles, en Belgique. Raconter les horreurs du colonialisme, mais aussi donner le goût du livre, est l'une des missions que s'est donnée Blaise Ndala, initié très jeune à la lecture par des parents enseignants. Blaise a toujours aimé écrire, dit-il. Enfant, je lisais avec mon père, je lui faisais même des résumés sur mes lectures et imaginais la fin. C'était un jeu pour nous, dit Blaise Ndala. Eh bien, moi, j'imaginais le livre au complet, monsieur Ndala. Je détestais lire le week-end. Le premier roman de Blaise Ndala, J'irai danser sur la tombe de Senghor, publié en 2014, s'inspire du combat de boxe célèbre entre Mohamed Ali et George Foreman au Zaïre en 1974, puis sans capote. Tony Kalachnikov paraît en 2017 et est finaliste au prix Trillium ainsi qu'au Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Notre journaliste Yasmina Dagri a eu la chance de rencontrer l'auteur Blaise Ndala.
Bonjour Monsieur Blaise Ndala, comment ça va?
Je vais bien, merci, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Qu'est-ce qui vous a donné le déclic d'écrire sur une période précoloniale avec votre roman Dans le ventre du Congo?
Alors ainsi que je l'ai dit à diverses occasions, ce qui m'a amené à écrire ce livre, le déclic comme vous dites, est parti d'une découverte que j'ai faite en 2003. Je venais d'arriver en Belgique en provenance du Congo, la RDC. Je venais faire mes études de droit et là je suis tombé sur la découverte de cette tombe de Congolais qui avait été inhumé près du musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, qui se trouve à peu près de Bruxelles. Et c'est des Congolais qui avaient été autrefois exposés dans un zoo humain. On l'appelait à l'époque un village africain. Et ces villages avaient eu lieu lors d'une exposition universelle que la Belgique avait abritée en 1897. Et donc, ces Noirs, ces Congolais, y avaient été exposés comme des sauvages pour justifier en quelque sorte l'importance, la pertinence du projet colonial, de la mission civilisatrice telle que la Belgique l'amenait en Afrique centrale. Donc c'est cette découverte assez bouleversante qui va m'amener à faire des enquêtes, des recherches dans les archives pendant mon séjour en Belgique et bien plus tard, même quand je me dirigerai au Canada. Et une dizaine d'années plus tard, ça aboutit donc à ce roman qui révisite cette période coloniale au cours de laquelle ces actes avaient été posés, mais également une période précoloniale, parce que l'un des personnages centraux dans mon roman est une descendante d'une dynastie traditionnelle congolaise qui existe depuis 1852, donc on parle pratiquement d'une période qui est antérieure à la colonisation belge au Congo. Voilà plus ou moins comment ce projet est né.
Pourquoi est-ce que vous choisissez en fait un titre si métaphorique, par exemple, dans le ventre du Congo ?
Parce que la métaphore, comme vous dites, est une manière de se singulariser. Quand on est un auteur, on a différentes ficelles dont on se sert pour attirer l'attention. Dans ce cas-ci, dans un titre, ce qu'on recherche le plus souvent, c'est quand même d'attirer l'attention, de créer une sorte d'ébranlement, une sorte d'interrogation, d'expectative dans l'esprit d'un lecteur potentiel. Donc cette métaphore me permettait de créer ce moment où le lecteur pourrait se demander de quoi il en retourne, mais beaucoup plus substantiellement, quand on lit le roman, et je pense que ça ne vous a pas échappé, il y a une série de choses qui relèvent de la mémoire presque perdue, presque effacée, à la fois des Congolais et des Belges, que je voulais remettre un peu sur la table, sur les tapis, et d'utiliser cette image de quelque chose qui sort du ventre, de quelque chose dont on accouche, d'une réalité ou d'une part de l'histoire dont on accouche littéralement, qui a été laissée dans les limbes, comme je le disais tantôt, ben ça peut s'expliquer, ça peut se dire plutôt dans la forme de quelque chose qui est enfoui dans le ventre et qu'on cherche à mettre en lumière.
Oui, parce que dès les premières pages en fait, de votre roman, vous faites une chronologie de l'ex-Congo-Belgique. Ça sera en fait des thèmes qui seront abordés au salon du livre afro-canadien, la colonisation. Selon vous, est-ce que vous pensez que le passé peut passer lorsqu'on fait référence à la colonisation et surtout dans une terre canadienne où il y a aussi eu la colonisation ?
Ça c'est toute la question. Là, vous posez toute la question du roman. Hein. C'est le roman se résume pratiquement à cette question-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça quand on ouvre le roman, on a en exergue ces mots de James Baldwin, qui est un écrivain américain qu'on ne présente plus. Nous portons notre histoire avec nous. Nous sommes notre histoire. Donc, mon roman part de la prémisse que dans ce que nous vivons, dans ce que nos sociétés, aussi bien au Congo, en Belgique, au Canada, puisque vous évoquiez la colonisation au Canada, vivons actuellement, ben il y a forcément une part qui est de l'ordre du legs, de l'héritage de cette période coloniale. Alors, est-ce que ça peut passer ? Est-ce que ce que ça charrie, tout ce que cette mémoire contient, tout ce dont cette mémoire est saturée peut faire partie du passé, de telle sorte qu'on peut s'en détacher sans que certaines pesanteurs continuent à nous poursuivre, sans que certains fantômes de cette période continuent de nous hanter. Alors ça, c'est toute la question qui est dans le roman. Mmh. Je laisserai quand même un certain suspense, une certaine part de suspense à ce qu'ils lisent pour savoir comment le roman tente d'y répondre. Mmh. Mais en dehors du roman, je pense que ça dépend beaucoup des actes que nous posons, de la manière dont nous embrassons cette histoire, de ce que nous en faisons, de manière dont nous répondons aux questions qui continuent d'être soulevées par cet héritage-là, par cette histoire, par ce qui a été fait, vécu, subi ou imposé. C'est en fonction des réponses que le temps donne, que nous donnons à travers le temps plutôt, il faut le dire de cette manière-là, réponse que nous donnons à travers le temps à cette équation de la mémoire qui continue de perdurer tant que nous vivons, ben c'est à l'aune des réponses que nous donnons, que nous saurons si ce passé est bel et bien passé, ou si, comme le dit d'ailleurs un poète dont on trouve ses paroles à l'entrée du musée d'Afrique centrale, qui est maintenant le musée Afrique à Bruxelles, pour retourner à Bruxelles, là où tout a commencé, à Tervuren précisément, ben, ce poète belge dit « tout passe sauf le passé ouais. ». Donc c'est vraiment dépendamment des réponses que l'on peut donner comme société à ces questions-là que l'on saura si on est parvenu à solder les comptes du temps et de faire passer les passés, ou est-ce qu'on est toujours englué dans ce passé de telle sorte qu'il faille encore investir des efforts pour s'en dépêtrer.
Bien dit. En tout cas, Blaise Ndala, vous avez étudié en Belgique, vous êtes installé à Ottawa en 2007. Est-ce que vous trouvez que dans la région, c'est un peu compliqué d'avoir des ressources ou du support pour aider et pousser les écrivains ?
Non, je ne crois pas. Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit si difficile. Il faut juste être un temps soit peu informé et frapper aux bonnes portes. Je pense par exemple à des structures qui existent, en commençant par celle dont je suis membre moi-même, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, l'AOF, qui a un service d'accompagnement aux jeunes auteurs, pas que jeunes d'ailleurs. Hein. Donc, à quiconque voudrait bénéficier d'un accompagnement dans les travaux d'écriture, l'AOF offre différents services. Il y a l'association de l'autre côté de la rivière des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Il y a la Maison de la littérature, qui est à Gatineau, qui a été créée nouvellement. Il y a les Salons du livre de l'Outaouais, dont j'étais président l'année passée. Donc, j'ai pu, à cette occasion, en apprendre davantage sur différents programmes qui sont offerts par ce magnifique salon. Et notamment des programmes en direction de jeunes. J'en ai parrainé quelques-uns, trois l'année passée, de jeunes, du secondaire, qui s'étaient portés candidats pour un projet collectif des textes sur l'environnement, mais je n'en dirai pas plus parce que ça sera annoncé publiquement dans les semaines qui viennent. On a pu les accompagner, mes pères et moi. Donc c'est dire que les ressources sont abondantes, il y a une communauté littéraire et une scène littéraire assez vivante dans la région. Donc si on s'informe un tant soit peu, si on prend part aux activités littéraires du genre de celles qui nous attendent cette fin de semaine, on finit par trouver la bonne porte et le reste se fait avec de la volonté et avec les ressources que l'on arrive à mobiliser.
Ottawa nous écoute. Blaise, est-ce que vous avez un dernier mot à leur dire, que ce soit sur le Slack ou même sur vos romans? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour finir?
Je ne peux que leur demander encore une fois de rester arrimés à la littérature et ces grands navires qui abolissent les frontières et qui nous amènent partout, les obstacles, partout où nous pouvons aller sans être gênés par quelques obstacles physiques, matériels, ainsi de suite. C'est le pays quand même de l'imaginaire où aucun passeport, aucun visa ne requis. Voilà, donc rendez-vous en pays des littératures, tout genre confondu, roman, prose, poésie, théâtre. On n'a que l'embarras du choix. Et les librairies, les bibliothèques que l'on compte en grand nombre dans la région sont là pour ça. N'hésitez pas à voyager avec nous, avec les auteurs d'ici et d'ailleurs.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
C'était avec plaisir.
Bonjour, ici Adèle à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
De la littérature à la musique qui s'accompagnent si bien l'un l'autre, nous allons rejoindre le musicien Martin Aucoin, qui était de passage à Chiticamp, en Nouvelle-Écosse, pour se produire au Festival international Celtic Colors du Cap-Breton. Martin Aucoin, multi-instrumentiste, joue du violon, de la guitare et pratique la podorythmie. Son parcours musical est très varié. Martin Aucoin a notamment joué au Québec avec la Chicadée, les Deux de Trèfle, la Famille Aucoin et les Promeneux. Il est par ailleurs cofondateur de Marais Musique, un organisme de promotion de la musique traditionnelle québécoise qui a mis de l'avant les Jam Trad de la ville de Lévis au Québec, et en face de Québec d'ailleurs, et les Veillées de Bellechasse. Et son duo avec sa conjointe Capucine se fait une belle place maintenant dans le milieu de la musique traditionnelle québécoise. Il ne rate pas une occasion de partager sa passion contagieuse, et cette fois avec notre journaliste Daniel Aucoin à Chiticamp. Il semble qu'il n'y a aucun lien de parenté.
Alors, dis-nous d'abord un peu, ça vient d'où ton intérêt pour la musique, ton intérêt pour la chanson traditionnelle?
Dur à dire d'où ce que ça vient, parce que j'ai grandi là-dedans. Ça fait que je ne sais pas trop où ce que ça a commencé, mais je me dis assurément que ça doit venir de mes parents et de ma famille. Chez nous, c'était une valeur qui était très, très, très importante, la musique puis la fête. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement familial, ben, il y avait de la musique avec ça. Soit que c'était du violon, de l'accordéon, il y avait de la chanson beaucoup. Puis, c'était pas nécessairement toute la musique traditionnelle. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se jouaient dans la famille. Mais je crois que j'ai été imprégné là-dedans à très jeune âge. C'est ça qui m'a amené dans la musique.
Alors, tu as joué un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, avec d'autres musiciens traditionnels. Parle-nous un peu de ces expériences-là.
Oh, ben oui, ça c'est... Ben, j'ai reçu des invitations formidables. J'ai pas joué beaucoup dans d'autres pays, mais aux États-Unis, quand j'ai joué, c'était au tout début de ma carrière. Ma sœur était dans un groupe de musique qui s'appelait Rod Marais, puis il avait une tournée de cet été, puis leur violoniste, il s'est désisté. Ça fait que j'ai été comme obligé de le remplacer à la dernière minute. Et puis c'est ça qui m'a comme starté. J'avais en fait une tournée pour faire des contra dance dans la Nouvelle-Angleterre avec une couple de petits shows autour de ça. Et puis après ça, j'ai, Quand j'étais en Europe, ça c'était pour remplacer aussi dans un autre band qui s'appelait Réveillon. C'est un super groupe de musique québécoise, musique traditionnelle mais moderne. Et puis là encore, ils m'avaient appelé peut-être un mois ou deux d'avance parce que leur violonneux ne pouvait pas venir. Ça fait que j'ai appris leur tune, puis j'avais en tournée en France puis en Belgique. Pour y avoir qu'une petite tournée, ça a duré peut-être une semaine.
T'as appris à jouer à l'oreille, paraît-il?
Oui, à l'oreille. J'ai ramassé le violon à 17 ans, le violon mon père. Moi, je voyais pas d'autre manière. Il avait essayé de me donner des cours de piano, puis tout ça, puis de lire à la note. Mm-hmm. Mais pour moi, ça semblait comme faire des devoirs. C'était trop forçant. Mais la musique était déjà dans ma tête. Ça fait que quand j'ai pris les instruments, ça s'est mis à sortir.
Est-ce qu'il y a des musiciens du Cap-Breton ou des musiciens d'ailleurs qui ont influencé ta musique au cours des années?
Ça, absolument. Absolument. Ça, c'est le cœur, je crois, de mon style puis de mon répertoire. C'est que quand j'écoute la musique, il y a des musiciens que j'aime plus que d'autres puis que je vais m'en inspirer. Qu'est-ce qui m'a fait starter, c'est quand j'étais un adolescent, j'ai entendu le fameux CD d'Ashley McIsaac, « Hi, how are you today? Mm-hmm. » Et puis là, j'ai eu comme une révélation. Je me suis rendu compte que je connaissais ces tunes-là, puis qu'avec ce style-là, j'aimais ça. Ça fait qu'à partir de là, j'ai commencé à écouter toutes les autres. Howie, du Jerry Orlin, puis même les plus vieux aussi, Winston Fitzgerald, Donald Angus Beaton, puis tout ça. Puis là, j'ai starté à prendre des tunes du Cap-Breton. Quand j'ai arrivé dans le répertoire du Québec, mais là, ça m'a pris un petit moment à m'adapter, là, parce que c'est très, très différent. Mm-hmm. Mais là, écoute, les influences sont multiples. Puis c'est beaucoup des influences du monde que je joue avec aussi, mais il y a les deux niveaux. Les deux niveaux, tu sais, les gens très proches de moi, autour de moi, avec qui ce que je joue, mes amis, puis il y a aussi les grands musiciens. Là.
Il y a aussi la chanson traditionnelle. Pourquoi c'est important pour toi de sauvegarder, préserver, promouvoir la chanson traditionnelle?
Je fais plutôt y avec ça parce que c'est ça que je préfère jouer puis entendre. Mais c'est vrai que c'est important de la préserver. Mais je trouve qu'il y a d'autres mondes dans la communauté qui le faisaient mieux que moi. Puis c'est souvent le monde qui m'engage, que je trouve que c'est à eux autres que je lève mon chapeau pour la préservation.
Qu'est-ce que ça représente pour toi cette semaine de participer au Festival international Celtic Colors du Cap-Breton pour la toute première fois?
Ah ben écoute, c'est surtout un grand honneur de participer à ce festival-là. Je veux dire, moi j'étais déjà venu comme festivalier, mm-hmm. et puis j'avais venu pour accompagner le band à ma sœur Rachel. Et puis je trouvais vraiment que c'est un festival exceptionnel qui a une réputée mondiale. Et puis, j'espérais même pas jouer ici un jour. Puis, quand Robert Deveau m'a appelé pour savoir si j'étais prêt à monter une petite affaire pour jouer avec Chester Delaney, ben là, écoute, je pouvais pas refuser ça, là. C'est une grosse opportunité dans ma carrière, puis aussi une manière de développer d'autres affinités avec d'autres mondes, puis de rencontrer des gens formidables. Ça, c'est...
Comment important que c'est de retourner sur la scène après les deux années de la pandémie?
Ah, ça, c'est vraiment très important. Ça a été pour moi une période très creuse musicalement, la pandémie, parce que j'ai joué pour moi, pour ma famille, dans ma maison, mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres projets, des projets d'agriculture, des projets artistiques, autres. Puis, c'est ça, le retour à jouer devant du monde, c'est essentiel pour motiver les troupes.
Suivez-nous sur Twitter à CanadaLGI @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On était au bord de l'eau avec Daniel Aucoin. On va y rester, mais en changeant de pays, direction les États-Unis, où l'on retrouve une famille albertaine originaire de Plamondon qui entame un périple en bateau à voile. Le bateau de la famille Tom et Carol Anne Elliott, conçu dans les années 70, n'avait jamais pris l'eau, vogué sur l'eau, avant le 30 août dernier, ce qui n'a pas effrayé pour autant le couple albertain Tom et Carol Anne Elliott, qui ont entrepris de réaliser leur rêve, celui d'explorer le monde en bateau à voile. Ils ont commencé à se préparer en mai dernier. Le couple effectue des recherches pour mettre la main sur un voilier d'occasion. Après l'île de Vancouver, puis l'État de Washington, c'est dans l'État du Minnesota qu'ils trouvent leur bateau. Ils devront travailler dessus pendant des mois, trois mois en fait, avant de le mettre à l'eau sur la rivière Sainte-Croix, dans l'État du Wisconsin. Ils ont depuis navigué sur les eaux du Mississippi en traversant l'Ohio et le Tennessee, mais à la trottinette, si on peut dire, car leurs mâts et voiles doivent encore être installés. Le couple se trouve maintenant sur la rivière Tom Big Bee, en Alabama. C'est là que Vincent Lavoie a eu Carol Anne Elliott au bout du fil.
Mon mari, ça fait longtemps qu'il rêve d'avoir un voilier, de même peut-être vivre sur un voilier un jour. Et puis, on a quatre enfants, mais on a trois qui sont assez vieux, qui sont partis de la maison. Puis, on a seulement que le bébé avec nous. Alors, le bébé a 16 ans. Alors, on est parti, mais on n'a rien trouvé dans le coin de l'île de Vancouver. Mais il y avait un bateau à Washington. Alors, on a traversé pour se rendre à Washington, mais ce n'était pas le bon bateau. Il y avait un autre bateau à Minnesota. Et puis, on a demandé à notre fille, qui est mariée à un Américain, d'aller voir le bateau pour nous autres et de nous donner une vidéoconférence pour être capable de voir le bateau. Puis après ça, on a décidé de s'y rendre. Et on a acheté le bateau. Ensuite, on a mis le bateau le 30 août à Wisconsin. Et alors, on a seulement à peu près 200 000, je ne sais pas. Ici, tout est en mille, là, au lieu d'un kilomètre. Là, je suis pas trop certaine combien de kilomètres, 300 kilomètres à faire pour se rendre à l'océan. Alors, ça, on va aller éventuellement dans le Golfe du Mexique. Et puis, de là, on sait pas, peut-être les Caraïbes, quelque chose comme ça. C'est un grand voyage. Après ça, on n'a aucune idée où est-ce qu'on va s'en aller. Mon mari et moi, on veut voir le monde. On veut... C'est ça, voyager. Puis le bateau va devenir notre demeure pendant ce temps-là, aussi longtemps qu'on est en bateau. Éventuellement, on va retourner au Canada.
Éventuellement.
Mais on ne sait pas quand.
Intéressant. Et selon ce qu'on m'a dit, le projet, la construction du bateau se fait au fil de votre voyage. Est-ce que je me trompe?
Oh non, tu te trompes pas. Parce que c'est un bateau projet, c'est un corbin. Celui qui a développé le corbin vient du Québec. Une personne qui vient du Québec, Marius Corbin, puis ça, c'est dans les 1970 qui a créé ce bateau aussi, Corbin. Et puis, il y en a juste à peu près 200 de ces bateaux aussi. Celui-ci, c'est un bateau projet. Alors, seulement que la coque avait été construite le dessus du bateau. Et puis, il fallait finir le bateau, il fallait tout construire le reste. Et puis, c'est allé dans les mains de trois autres personnes qui ont travaillé dessus, qui l'ont mis dans une grosse grange. Et puis, nous autres, on est les quatrièmes à l'appartenir, puis finalement, à le finir, puis le mettre sur l'eau.
Sans nécessairement aller dans les chiffres, c'était tout un investissement de mettre le bateau à l'eau.
Ah oui, mais l'investissement, ça, c'est à mesure parce que puisque c'est un bateau projet, c'est pas un bateau qui est complété. Alors, on en a du travail à faire en ce moment. C'est comme camper sur le bateau. Alors, avec le temps, à mesure qu'on a les fonds pour être capable d'ajouter des choses au bateau puis rendre le bateau plus confortable, on va être capable de c'est ça, on va continuer à travailler dessus puis on va y aller de même. Puis, c'est un voilier, mais le mât et les voiles ne sont pas montés encore. Alors, il faut encore les installer ça. Il y a beaucoup de choses à faire sur le bateau. Ah oui.
En tout cas, Carol Anne Elliott, vous êtes enseignante, mais aussi navigatrice à la voile originaire de Plamondon. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et on vous souhaite plein de belles aventures.
Ah, ça fait plaisir.
Ici Vincent Lavoie pour IJL à Plamondon.
Et Steven Bilodeau a lui aussi décidé de donner vie à ses rêves. Après avoir passé près de 20 ans au service des Forces armées canadiennes, Stephen Bilodeau profite de sa retraite pour retrouver les planches et caresser du bout des doigts un rêve de jeunesse, celui de devenir humoriste, imaginez. Il fait ses débuts dans le milieu du stand-up à l'automne 2018 avec la Acting Company et suit même des cours à l'École nationale de l'humour à Montréal. L'humour l'a toujours, dit-il, accompagné lors de ses déploiements au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, il tente de panser ses blessures et traumatismes en faisant rire et sourire. Il est en compagnie de notre journaliste Marie Hillès à Ottawa.
J'étais très jeune, je caressais ce rêve-là, mais j'avais besoin de sécurité. Donc, je n'étais pas capable d'envisager de me lancer dans le vide, surtout avec une forme d'emploi qui était si précaire. C'est ce qu'on disait, que c'était difficile d'avoir des revenus intéressants puis des revenus qui sont récurrents. La fin de ma carrière militaire, l'arrivée de ma pension m'a offert un minimum pour être capable à ce moment-là de tenter l'expérience et de voir si les gens allaient me choisir comme humoriste.
Qui est Stephen Bilodeau, militaire?
Stephen Bilodeau, le soldat, s'est enrôlé en 1998 au centre de recrutement dans la ville de Québec. Je venais de compléter une deuxième année comme technicien en service de garde en milieu scolaire et je voulais changer de carrière pour plusieurs raisons. Et j'ai découvert un métier qui... je vais dire sur mesure pour moi, parce que j'ai en plus de trouver une famille, j'ai trouvé un emploi qui était très, très physique. Donc, ça allait combler aussi beaucoup d'autres besoins que j'avais.
Et qu'est-ce que le militaire t'a donné pour ta carrière humoristique?
Une plateforme de stand-up. Comme j'ai dit, j'ai été dans l'armée pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, être souvent dans des situations qui ont été périlleuses, situations qui vont avoir été difficiles, où est-ce que... Le groupe dans lequel j'appartenais pouvait vivre des moments difficiles, mais lorsque j'utilisais l'humour, ben ça pouvait être une forme exutoire dans le moment présent. Et j'en tirais une grande satisfaction, encore une fois. Ça l'aidait beaucoup à passer les moments difficiles.
Donc, je vois que l'humour t'a soutenu, t'a été à côté de toi ou avec toi pendant ta carrière militaire. Et comment est-ce que l'humour t'a aidé une fois que t'es revenu au Canada?
Mais je devais me redéfinir et un des rêves que j'avais, un des emplois qui était envisageable pour moi une fois la carrière militaire terminée, c'était celui d'humoriste. Donc, ça me passionnait énormément. Puis je voyais aussi que même avec les difficultés physiques et mentales, ben il y avait la possibilité de peut-être faire du stand-up à plus ou moins grande échelle, mais à ce moment-là, je ne le savais pas.
Et du coup, maintenant, on revient à ce qui se passe actuellement. Donc, qui est Stephen Bilodeau, l'humoriste?
Stephen Bilodeau, l'humoriste, c'est Stephen Bilodeau en soi, qui était un enfant qui a perdu sa mère à l'âge de 8 ans, qui a eu un père qui était présent, mais qui travaillait énormément, qui n'avait pas la capacité de prendre en charge deux enfants lors de la mort de ma mère, qui nous a envoyés en famille d'accueil. Mais c'était pour lui une stratégie d'aller se refaire une vie pour être capable de réaccueillir ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait au bout de quelques années.
Et du coup, tu utilises tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu dans tes stand-up. Donc, tes stand-up, c'est plus un stand-up au quotidien ou comment est-ce que tu t'inspires, justement?
De plus en plus, je vais m'inspirer de ma vie proche, de ce qui m'arrive au quotidien, parce que davantage, quand les gens te connaissent, ils veulent entendre parler de toi et de ta vie.
Eh bien, il n'est jamais trop tard, semble-t-il, pour donner vie à ses rêves. Nos collaborateurs cette semaine sont Daniel Aucoin, Marie Hillès, Vincent Lavoie, Yasmina Dagri, coordonnateur national Stéphane Bénard, Boris Chassagne ici au micro et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Merci d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous sur canada-info.ca. Des tonnes de reportages vous y attendent. Découvrez-y le Canada sous toutes ses coutures et points de vue. Ciao!
Ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca et suivez-nous sur Twitter à canadalji.